François Lagros, c'est à vous.
Merci. Deux mots peut-être pour me présenter d'abord. Donc, je travaille pour effectivement le groupe Veolia Environnement. Je travaille aujourd'hui pour le directeur général d'un groupe. Et avant, j'ai un parcours opérationnel. J'ai dirigé notamment les activités de Veolia à Lyon. Je me sens au milieu familier ici. J'habitais rue Burnot juste au-dessus jusqu'il y a 3 ans. Voilà, donc depuis, je travaille plus sur des thèmes stratégiques. Et donc là, la thématique que je vous propose après l'historique et les mécanismes du marché, c'est de regarder la suite de l'histoire, en quelque sorte, qui est donc un sujet sur lequel on s'est penché chez Veolia pour réfléchir justement à l'évolution des modèles économiques de cette matière première une fois qu'elle est en fin de vie, c'est-à-dire une fois qu'elle est devenue un déchet. Sachant que, comme l'a souligné Gilles Bellec tout à l'heure, les politiques publiques aujourd'hui s'inquiètent évidemment de l'impact sur l'évolution stratégique des marchés et sur l'évolution environnementale également de la croissance accélérée des consommations et de la croissance accélérée aussi pompage sur les ressources primaires. Alors pour se donner juste quelques idées, le marché du déchet, il est très très différent selon qu'il est dans les pays développés ou dans les pays émergents. Dans les pays émergents, on est sur des thématiques qui sont beaucoup plus difficiles à cerner, c'est souvent une économie informelle, qui peut d'ailleurs avoir un niveau de recyclage extrêmement élevé, parce que beaucoup de choses ont plus de valeur dans un pays pauvre que dans un pays riche. On évalue à peu près à 3 à 4 milliards de tonnes par an les quantités de déchets qui sont produits dans le monde, ce qui est à la fois beaucoup, ce qui n'est pas énorme au regard des quantités de matières premières qui sont consommées. Je pense que l'acier, ça doit être plus de 2 milliards de tonnes par an, largement plus même. Mais enfin, c'est déjà des quantités importantes. Et puis, c'est aux alentours de 300 milliards de dollars de valeur, dont un bon tiers dans les grandes économies riches, évidemment. La question qui se pose aujourd'hui, donc, c'est comment, enfin une des questions, en tout cas celle que je vous propose d'aborder, c'est comment cette fin de vie de la matière permet ou non d'agir sur le refroidissement de cette chaîne de la matière de façon à infléchir les courbes qu'on connaît depuis le début de l'ère industrielle. Pour vous donner une idée, la consommation d'acier au XXe siècle elle a été multipliée par 30 entre 1900 et 2000. Et en gros, on voit que c'est une belle exponentielle à 3,5% par an de progression annuelle, tendanciellement, avec un ventre, une excroissance pendant les 30 glorieuses, mais on revient sagement dans l'exponentielle à la fin. Si on regarde les courbes du cuivre, on retrouve sur 45 ans, 50 ans, une croissance à 3% par an également. Sur le plomb, c'est sur les 20-25 dernières années, c'est 3,5% par an. Et bref, on retrouve ce type de comportement exponentiel, en tout cas, par tronçon de plusieurs décennies, séparés comme... vous le soulignez il y a un instant, par des changements sur le marché. Par exemple, pour le plomb, le bannissement du plomb dans les essences, une production très, très flat, très faible, à plus d'1% par an dans les années 70-80, et puis ensuite l'émergence de la Chine, et bim, on repart, comme je le disais, à 3,5% sur plusieurs décennies depuis le début des années 90. Donc voilà, profil exponentiel, et aujourd'hui les politiques publiques, notamment par exemple celles de l'Europe, concentrent beaucoup sur finalement la matière en fin de vie, les politiques visant à refroidir un petit peu ce cycle de la matière. En gros, les deux principes qu'on connaît tous et qui aujourd'hui pèsent aujourd'hui en priorité sur ces politiques, c'est d'abord l'idée de réduire les déchets. Réduire les déchets, notamment et principalement pour fonctionner moins sur les ressources, avec l'idée que les déchets évités sont des consommations évitées. Et puis la deuxième charnière de ces politiques, c'est évidemment recycler. Ça a été souligné à propos de l'Allemagne, c'est valable pour toute la politique européenne, et c'est également évidemment une priorité de toutes les économies du monde. Aujourd'hui, en tout cas celles qui sont riches, la Chine aussi, pour les autres émergents moins, parce que c'est moins la priorité, recycler pour faire tourner l'économie, construire une économie circulaire, avec l'idée vaguement exprimée que finalement, si on recycle la moitié de la matière, on ira deux fois moins vite vers l'épuisement des ressources naturelles, puisqu'on a besoin de pomper deux fois moins vite en apparence au moins, dans les ressources non renouvelables. Le trait, c'est juste un problème, c'est pas que j'ai voulu le rayer, c'est un problème de mise en page. Voilà, et la question qu'on va se poser maintenant, je vous propose de plonger là-dedans, je vais aller assez vite, et donc parfois je passerai un peu sur certains concepts, mais c'est comment ça marche ça, parce que si on veut faire tourner l'économie en disant le déchet c'est la ressource de l'industrie, et si, comme le dit la plateforme de Lisbonne, on veut en Europe, par exemple, développer l'industrie européenne, ce qui est un défi, et en même temps qu'on dit que la priorité absolue, c'est de tendre vers le zéro déchet, enfin, ce truc-là, visiblement, pose un problème. Quoi. Comment ça marche, une économie circulaire, dont l'idéal est de produire zéro déchet. Donc on va rentrer là-dedans. La question qu'on s'est posée dans, dans ce cadre, c'est vraiment comment le recyclage et dans quelles conditions et à quel point le recyclage va-t-il ralentir l'épuisement des ressources, d'une part, avec malgré tout c'est un point qu'il faut relativiser, l'écorce terrestre elle est pleine de minerais, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, ils ne sont pas tous accessibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, au fur et à mesure qu'on les pompe, on concentre les pays dans lesquels on les trouve et les industriels qui vont les produire. Mais associé aussi à toutes ces consommations primaires, c'est-à-dire les ressources qui viennent des gisements, il y a également tous les impacts environnementaux qui y sont associés et qui sont bien plus lourds que tous ceux qu'on va produire le long du reste de la chaîne de la matière, y compris son recyclage. C'est-à-dire, en bref, de l'acier qui est produit dans un four électrique à partir de ferraille, ça produit beaucoup moins de gaz à effet de serre, par exemple, que de l'acier qui est produit à partir de minerais dans un haut fourneau. Et toute la chaîne primaire va être lourde, et donc on va s'intéresser à ça. Ça, je vais passer très vite. Je ne vais pas commenter dans le détail la notion de ressources qui s'oppose à la notion de réserve. La notion de réserve est une notion business, en fait, hein, qui est qu'est-ce qui est exploitable et connu dans les conditions économiques d'aujourd'hui. La ressource, on est dans une portée géologique plus longue, où on extrapole à la fois des conditions économiques futures et des gisements soupçonnés seulement. Et là, je vous invite simplement à regarder la deuxième colonne de chiffres, où vous voyez les ressources d'un certain nombre de métaux transformés en années de production 2008. Et vous voyez que là, on se dit qu'on a le temps, on a plusieurs siècles devant nous, avec déjà ce qu'on identifie par des indices géologiques directs ou indirects. On a donc 250 à 500 ans, on va dire, pour la plupart des métaux usuels. J'ai mis le lithium quand même pour dire qu'il y a aussi les métaux rares qui sont concernés par cette approche, ô combien. Et donc là, on a voilà, plusieurs siècles devant nous. Ça, c'est en année 2008. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est face à des profils exponentiels. Et quand on les transforme en scénario de croissance, et non plus simplement en division par l'année de production précédente, on voit que ce n'est plus du tout la même histoire, et que la ressource qu'on identifie aujourd'hui, c'est-à-dire 500 ans de production dans certains cas au rythme d'aujourd'hui, ça se consomme en 50 ans, à 100 ans, simplement au rythme de développement économique actuel, voire à un rythme largement assagi par rapport au développement actuel. Donc ça ne veut pas dire qu'on grattera la dernière mine à ce moment-là, je l'ai dit, il y a de la ressource, ça veut dire simplement que ça nous donne un horizon, ça nous donne une échelle de temps sur lequel on peut comparer notamment différentes politiques publiques relatives à la matière. La question qu'on va regarder maintenant, c'est comment, face à ces croissances exponentielles de consommation, et face à ces horizons qui malgré tout nous parlent, quoi, on est sur des échéances qui ne sont pas des échéances ultimes, mais qui sont quand même des échéances après lesquelles on ne sait pas trop et qui se rapprochent à une échelle d'une génération, comment le recyclage nous aide-t-il à aller là-dedans? Alors, tout de suite, une mauvaise nouvelle, le recyclage, il ne multiplie pas les échéances par un facteur. Recycler la moitié de la matière, ça ne double pas les échéances. Si on a une croissance de matières premières, c'est le très plein ici, symboliquement, on part de 100 l'année 1 et qui augmente par exemple ici 2% par an chaque année, et qu'on ne recycle pas du tout, on va pomper chaque année dans les gisements exactement la même quantité, donc le très plein. Si en revanche on recycle, on va pomper beaucoup moins dans les gisements, et donc là par exemple en recyclant à 80%, on va pomper à peu près un cinquième, il y a une nuance théorique sur laquelle je passe très vite, et donc en volume, on va pomper beaucoup moins à tout instant que si on n'avait pas recyclé. Le problème, c'est que si la courbe en très plein croît à 2%, évidemment, un cinquième de 2%, ça croît aussi à 2%. Et une fois que la courbe des ponctions dans les gisements a rattrapé la valeur 100, ensuite, c'est la même courbe, mais décalée une fois pour toutes, d'une certaine durée. Et donc, face à ce profil typique des consommations de matières premières, d'être exponentiel en tendance, quelques décennies d'affilée en tout cas, on voit que l'effet du recyclage, c'est certes de gagner du temps, mais simplement de gagner une fois pour toutes un certain temps. Et la question évidemment c'est combien de temps? Combien de temps dans les paramètres usuels de l'économie? Si on gagne 250 ans, on a déjà fait bien d'autres boulots, et je pense qu'au regard des horizons des politiques publiques, c'est déjà très très bien. Évidemment, si c'est 15 ans, c'est une autre histoire. Alors voilà, on peut résoudre ces équations, c'est pas très compliqué, et quand on résout ces équations, on peut par exemple représenter de cette façon-là les effets en question. Donc là, vous avez en ordonnée, alors je vous prie de m'excuser, certaines courbes sont en anglais, parce que je m'en sers aussi dans les internationales. Donc en ordonnée, vous avez cet écart entre gagner grâce au recyclage, combien de temps on gagne une fois pour toutes dans un contexte donné, en nombre d'années. En abscisse, vous avez le taux de croissance de la consommation de matières premières en tendance dans la période qu'on considère. Et puis, vous avez différentes courbes reliant l'un à l'autre en fonction de différents taux d'efficacité du recyclage. C'est-à-dire, en gros, 30% d'efficacité du recyclage, c'est que sur 100 tonnes de matières qui sont rejetées dans les déchets pour un métal donné, par exemple, je suis capable d'en réintégrer 30 dans l'économie. J'ai réussi à capter 30% ou 60 ou 90% de la matière en question contenue dans les déchets. Je mentionne au passage qu'il y a un autre paramètre sur lequel je reviendrai, qui est le temps de séjour dans l'économie. Vous voyez en haut, là c'est 17 ans, et qui est en gros le temps qui va séparer le moment où la matière est sortie du haut fourneau, qu'elle est devenue matière première consommable, et le temps où elle retourne à la terre, en quelque sorte, sous forme de déchets. Et juste pour effleurer l'effet de ce mécanisme, c'est que les quantités qui sont disponibles dans les poubelles aujourd'hui, c'est celles qui ont été produites il y a quelques années. Et évidemment, en volume à l'échelle mondiale, la production d'il y a quelques années est inférieure, par définition, par hypothèse ici, à la production actuelle. Et donc, même si je recycle 100% de ce qu'il y a dans les déchets, si entre-temps, entre le moment où ça a été produit et aujourd'hui, les besoins de matières premières ont doublé, ça ne contribuera que pour moitié aux besoins de l'économie aujourd'hui. Et donc vous voyez que ce paramètre-là, il est évidemment important, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, considérons-le comme une donnée. Et donc vous voyez, par exemple, que pour 2% de croissance et 90% de recyclage, qui est un défi pour une matière donnée, pour le temps de séjour en question, on va gagner 50 ans, à peu près, contre l'épuisement de la ressource. Et ce qui veut dire, en gros, que pour toute autre croissance au-dessus de 2%, en gros, on a un effet, il faut le reconnaître, assez dérisoire du recyclage sur cette question, à la fois de l'épuisement des gisements de matières premières, et puis également la question liée de tous les impacts environnementaux cumulatifs et globaux, comme les productions de gaz à effet de serre, associées à la production de matières premières. Et donc on voit que, certes, c'est déjà quelque chose, on agit dans le bon sens, en même temps, c'est pas ça qui va nous permettre de changer substantiellement la face du problème. Si on regarde le fer, je vous ai dit 3,5% de croissance annuelle tendancielle sur le XXe siècle, un fort taux d'effet de recyclage à l'échelle mondiale, hein, probablement de l'ordre de 60 et quelques pourcents au niveau mondial, ce qui est assez impressionnant, ce qui est lié à l'économie, bien entendu, du fer et de l'acier, à la simplicité du recyclage. Et vous voyez que ça ne fait gagner que 12 ans contre l'épuisement de la ressource en minerai de fer. C'est-à-dire que, les ponctions cumulées de minerai, sur les gisements de minerai de fer au cours du XXe siècle et jusqu'à 2012 seront égales en 2012 donc à ce qu'on aurait atteint en 2000 si l'humanité n'avait pas du tout recyclé le fer au cours du XXe siècle. Donc ça nous donne beaucoup d'humilité par rapport à l'impact environnemental du recyclage à lui seul. Et encore une fois, je ne veux pas le passer, je ne veux pas le minimiser, il est important, mais dès lors qu'on raisonne en développement durable, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, pour beaucoup de paramètres, il ne faut pas raisonner en volume, en fait. Il faut raisonner en temps gagné, en tout cas, dès qu'on est sur des impacts cumulatifs dans le temps. C'est valable, à mon avis, pour le climat, c'est valable, évidemment, pour les ressources. Une autre conclusion qu'on peut en tirer, si vous regardez la partie gauche de la courbe, si on veut gagner sensiblement plus d'un siècle, mettons 150 ans contre l'épuisement des ressources, on voit tout de suite où va se trouver une partie du paradigme de développement nécessaire, c'est en dessous de 1% de croissance matérielle. En gros, entre 0,5 et 1%. Et c'est dans ce cas-là, si en tout cas on veut rester avec quelque chose largement au-dessus de 0, mettons 0,5%, il faut être avec un fort taux de recyclage, probablement de 60 à 80% pour le matériau considéré. Et donc là, on voit déjà se pointer finalement des conditions dans lesquelles, des conditions de soutenabilité de l'économie, dans lesquelles, avec un fort taux de recyclage, mais aussi une certaine sobriété dans la croissance de l'économie matérielle, on est capable, non pas de gérer les millénaires, mais enfin, ce n'est pas forcément non plus notre responsabilité, mais en tout cas de gérer le long terme, le très long terme, et d'étaler tous ces effets cumulatifs sur le très long terme. Les autres métaux, vous avez vu tout à l'heure brièvement les taux de croissance. Les taux de croissance des dernières périodes sur le cuivre, le zinc, l'aluminium et le lithium, malheureusement, ne sont pas très rassurants. On est exactement dans les mêmes thématiques. Et donc vous voyez que l'acier, certes, c'est pas brillant, mais les autres, c'est pas beaucoup plus rassurant. Alors, comme je suis cruel, je vais ajouter le pétrole. Le pétrole est une matière d'abord énergétique, c'est aussi la matière première du plastique. Et bien entendu, on se dit tous que recycler les plastiques, c'est extrêmement important pour limiter l'épuisement des ressources en pétrole, épuisement ou en tout cas la ponction, la réduction des ressources en pétrole. Le problème, c'est que le plastique, c'est 4% des usages du pétrole, et que même si on en recycle 100%, ça revient à recycler 4% de la matière première pétrole. Et là, bien qu'on ait un taux de croissance des consommations de pétrole relativement modéré par rapport aux métaux qu'on vient d'évoquer, j'ai pas eu la cruauté de faire le calcul, mais je pense qu'on doit tomber sur quelques semaines de décalage grâce au recyclage du plastique. Et ça me permet à la fois de dire, enfin je pense que c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça veut dire qu'il y a quelques dogmes qui doivent être évidemment revisités. En même temps, il y a d'autres avantages à recycler, je voudrais en citer deux très rapidement. Recycler du plastique, ça produit beaucoup moins de gaz à effet de serre, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure pour l'acier, je peux le dire pour les autres métaux en général, mais c'est vrai pour les plastiques, ça en produit beaucoup moins que de le fabriquer à partir de pétrole. Donc ça c'est quelque chose qui de toute façon justifie évidemment le recyclage, sauf que il faut mettre le recyclage je dirais là-dessus sur le même plan que d'autres solutions de gestion des déchets et puis comparer les performances. Et puis un autre aspect qui est extrêmement important pour un certain nombre de matières premières, pour toutes d'ailleurs, on l'a abondamment dit, mes prédécesseurs l'ont abondamment commenté, c'est évidemment l'indépendance stratégique. Toutes ces matières, dans la plupart des pays, enfin dans un grand nombre de pays, elles sont importées, et bien entendu la ressource urbaine, celle qui pousse dans notre rue, elle, elle n'est pas importée. Donc il y a des bonnes raisons à recycler malgré tout. Alors je vous propose un dernier aspect, maintenant regardons un peu le bilan matière, pour regarder un troisième paramètre, en fait, de la durabilité de l'économie. À un moment donné, le bilan matière de l'économie, il est très simple. On consomme des matières, c'est un flux, c'est la consommation de matières, par exemple d'acier en France, consommation nette, on va dire, je vais entrer dans le détail, au cours de l'année 2009, par exemple. On a rejeté des déchets, des quantités d'acier contenues dans les déchets. Mais évidemment, il n'y a aucune raison, en fait, pour que les deux valeurs soient égales. Et la différence entre les deux valeurs, c'est la variation du stock de matière qui nous entoure ici, qui est le stock de matière en usage dans l'économie. Et donc, le bilan matière, c'est que nos consommations, c'est égal à nos rejets de déchets, plus l'addition nette au stock, qui peut être négative si j'ai vidé mon grenier cette année et puis que j'ai tout jeté à la déchetterie, mais qui, en général, est positive parce que l'économie se développe et que le monde s'enrichit. Alors ça, c'est important parce que cette addition nette au stock, on peut la relier à ce paramètre que j'évoquais tout à l'heure, qui est le temps de séjour dans l'économie. Je n'entrerai pas dans le détail. Mais dans ce qui va suivre, on va s'intéresser justement au rapport, au taux d'addition nette au stock, c'est-à-dire le rapport entre ce volume, ce flux, et puis la consommation de matière, où ce qui revient au même, c'est un moins l'autre, le taux de rejet de l'économie, c'est-à-dire le rapport entre le rejet en déchets et la consommation de matière. Alors juste, l'addition nette au stock, ça peut paraître un peu virtuel, mais je me suis demandé où est-ce qu'ils sont les stocks qu'on connaît. Ils sont dans le domaine public, c'est l'artificialisation des sols, qui est un sujet bien connu. C'est 120 km² par an en France, chaque année, donc, qui sont artificialisés, c'est-à-dire des routes, des chemins de fer, des zones commerciales dans les banlieues, etc. Et bien entendu, avec ces km² artificialisés, il y a tous les équipements qui vont dessus, les rambardes d'autoroute, les rails de chemin de fer et les charpentes métalliques. C'est ensuite la surface habitable, le deuxième volume qu'on connaît bien tous et qu'on pratique et qu'on a, c'est notre surface habitable. Et je trouve que ces chiffres sont parlants. On voit que dans un pays qui est déjà riche à l'échelle mondiale en 1970, la France avait 22 mètres carrés habitables par habitant. Elle en a 35 par habitant aujourd'hui, et puis la population a augmenté entre-temps. Et donc là, on voit qu'on a créé du stock. On est un pays riche à l'échelle du monde, mais on continue de créer du stock, continue d'accumuler des biens. Et puis le dernier point qui nous entoure et qu'on a tous, ou beaucoup d'entre nous, et c'est le véhicule. Et vous voyez que si on regarde l'évolution du parc d'automobiles, qui était déjà très largement équipé en 1996, lorsque commence la statistique ici, eh bien on ajoute en moyenne 20%, 20% des immatriculations de véhicules neufs servent à ajouter au stock. Donc notre société de consommation, c'est aussi une société d'accumulation. Ce n'est pas seulement une société du jetable. Et quand on regarde finalement comment tout ça interagit, je ne vais pas le commenter dans le détail, mais retenez en tout cas qu'on voit que cette accumulation, elle empêche évidemment l'économie de tourner, et que si on accumule plus de 20% en gros de ce qu'on consomme, eh bien on aura énormément de mal à gagner beaucoup de temps contre l'épuisement des ressources grâce au recyclage, ce qui veut dire que si on ne rejette pas plus de 80% de ce qu'on consomme dans les déchets, ce qui revient au même, on a énormément de mal. Et donc maintenant, si on vient en représentant le cycle de la matière, donc vous avez la matière, elle est consommée en haut à gauche, on retrouve le triangle un petit peu de mon bilan matière, là, on ajoute aux stocks qui sont tout en haut, nos biens, les biens qu'on a tous, nos collectifs, etc., les infrastructures. On rejette des déchets à droite, ces déchets ensuite, on en recycle une partie et on en renvoie en dispersion, en quelque sorte, dans des décharges, une partie également en bas à droite, c'est... les stocks à faible concentration, ceux qu'on ne saura pas utiliser dans l'immédiat. Et puis, ensuite, on réintègre le recyclé dans l'économie et on complète en ponctionnant dans la ressource. On voit que les trois conditions pour que ce cercle soit à peu près vertueux et nous fasse gagner beaucoup de temps contre l'épuisement, c'est d'une part un taux de recyclage élevé, 60 à 80% de la matière première contenue dans les déchets. C'est ensuite, et là clairement quelque chose d'un peu inattendu au départ, d'avoir une faible addition au stock, donc un fort rejet dans les déchets, plus de 80% des consommations rejetées dans les déchets. Et puis, le paramètre le plus important, c'est de refroidir un petit peu la consommation matérielle, c'est de découpler la croissance économique et la croissance matérielle en descendant en dessous de 1% de croissance matérielle. Et si on représente symboliquement un cycle non soutenable, qui est en gros le cycle que nous connaissons aujourd'hui, on voit qu'on a trop d'accumulation, donc pas assez de déchets, en quelque sorte, on n'a évidemment pas assez de recyclage, et surtout, à chaque tour de manivelle, à chaque fois qu'on a fini le cycle, on a trop de croissance et donc on a besoin de réinjecter une matière supplémentaire trop importante en provenance des ressources. Je vais passer très rapidement, mais on peut regarder ce qui se passe, par exemple, sur le cycle. Alors, il y a très peu de comptabilité matière suffisante, mais j'ai trouvé des statistiques sur la Grande-Bretagne et l'acier. Et donc là, on est à nouveau dans un pays riche, encore une fois, à l'échelle mondiale, un pays qui est le précurseur de la révolution industrielle, qui a des infrastructures, etc., etc. On a encore une croissance de la consommation nette d'acier de plus de 1% en Grande-Bretagne au cours des 20 dernières années, ou des 30 dernières années. On a une efficacité élevée du recyclage, 71%, et vous voyez que là, on rentre dans le cas du recyclage dans nos critères. En revanche, on est trop haut en croissance. Et puis, on voit que même dans un pays comme la Grande-Bretagne, on continue d'accumuler trop de matières premières, plus de 30% d'accumulation d'acier. Autrement dit, on ne rejette pas assez d'acier dans les déchets, 69% seulement, pour être effectivement durable. Et enfin, si on fait quelques scénarios, et là, je vais passer à nouveau très vite, mais là on est sur des consommations cumulées de matières premières, et non plus annuelles. La base 1, c'est la consommation de matières premières totale l'année 1, dans le scénario, enfin l'année 1, 2010, hein, pour que ce soit parlant. Et là, vous voyez ensuite sur deux siècles des scénarios totalement théoriques. Jusqu'à 2050, on a un scénario de base qui est en gros le scénario de l'acier au XXe siècle, 3,5% par an, 60% de recyclage et 60%, je crois, enfin 40% d'accumulation, d'addition nette au stock. Et puis on commence à faire diverger les différents scénarios ensuite. Alors le A, c'est la poursuite éternelle, enfin si j'ose dire, parce que vous voyez que ça ne peut pas être éternel, mais ça on s'en doute, du scénario en question. Donc c'est notre scénario acier XXe siècle qui se poursuit. Le W, c'est un worst case, c'est le cas le pire, c'est la même chose mais sans le recyclage. Et comme vous le constatez, on n'est pas très loin du worst case et on retrouve nos 12 années de tout à l'heure, hein, si on ne recyclait pas. Et puis le B, c'est un scénario où on a fait le découplage économique, c'est-à-dire on ne recycle pas mais on a assagi à 0,5% par an la croissance de la matière première. Et là vous voyez que ça, évidemment, ça va diverger énormément pour le meilleur sur le très long terme. Le problème c'est dans quel état arrivons-nous au très long terme, parce qu'il faut du temps pour que ça fasse effet. Et finalement, les deux scénarios qui sont visiblement vertueux, c'est C et D, qui sont deux scénarios qui respectent les trois conditions que j'évoquais tout à l'heure, avec deux taux de recyclage plus ou moins poussés, 60% pour l'un, 80% pour l'autre, une croissance annuelle de 0,5% et un taux d'accumulation de seulement 10%, c'est-à-dire que 90% de ce qu'on consomme retourne dans le déchet, on fait tourner le cycle, on l'alimente. Et là, on voit que, d'une part, sur le long terme, on va gagner plusieurs siècles par rapport à notre business as usual, et puis que même dans l'horizon de temps qu'on se donnait tout à l'heure, de 250 à 500 fois la consommation cumulée de l'année 1, eh bien, on arrive à décaler d'un siècle par rapport à un scénario qui serait la poursuite à l'identique jusqu'à la fin du XXIe siècle de nos croissances de matière. Le scénario X, il est intéressant parce que c'est le scénario britannique que je viens d'évoquer pour l'économie de l'acier, en supposant finalement que le monde entier se calquerait sur l'économie britannique aujourd'hui à partir de 2050. Vous voyez qu'on est déjà très vertueux par rapport à aujourd'hui, mais qu'on est loin d'avoir encore montré l'exemple dans les économies développées pour le reste du monde. Donc en fait, si on revient sur le paradigme du début, hein, on voit qu'il va falloir le réviser, réduire les déchets pour fonctionner moins sur les ressources. En fait, ce n'est pas tout à fait le sujet, hein, bien sûr, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut l'exprimer. Les déchets évités ne sont pas forcément des consommations évitées, hein, ils peuvent être simplement des stocks supplémentaires. Et donc, il faut repenser tout ça en se disant, premier point, c'est diminuer l'accumulation de matière par l'économie, un paradigme différent de consommation, recycler toujours effectivement, mais en ayant conscience, et avec humilité, on va dire, de l'ambition qu'il faut avoir en termes d'efficacité, mais des limites de ce que ça va pouvoir offrir. Et puis surtout, on voit qu'il y a un défi majeur qui commence à s'imposer à l'économie, qui est de réduire l'intensité matérielle de l'économie, c'est-à-dire d'augmenter seulement de 0,5 à 1% par an les consommations de matières premières, alors même que nous ne savons pas trop imaginer une économie aujourd'hui qui ne crée pas au moins 2 à 3% de richesse sur le plan financier. Et donc finalement, la nouvelle dynamique, ce sera ma dernière diapo, ça serait une société qui recycle le maximum, mais aussi une société qui consomme plutôt de l'usage et de l'immatériel plutôt que d'accumuler des biens matériels supplémentaires. J'insiste quand même sur le fait que je vous ai proposé un paradigme qui est encore un paradigme de croissance, qui n'est pas un paradigme de décroissance, qui est encore un paradigme d'accumulation supplémentaire, mais beaucoup plus sobre qu'aujourd'hui, avec du coup quelques conséquences. Pour les pays riches, ça suppose de repenser les priorités publiques pour la gestion des déchets. On voit que dire un bon déchet est un déchet évité, ça ne marche pas tout à fait. Un bon déchet est un déchet recyclé, et à défaut, il faut l'éviter, effectivement. Et là, on a clairement un sujet pour la décennie qui vient au niveau de Bruxelles. Et puis, on voit bien qu'il va falloir passer progressivement d'une politique du déchet à une politique de la matière, c'est-à-dire élargir le scope des politiques publiques en la matière. Et puis, évidemment, pour les pays émergents, on est sur une toute autre problématique, parce que tout ce que je viens de raconter dans des pays où le PIB par habitant est 7 à 20 fois plus faible que dans les pays comme le nôtre, expliquer qu'il faut aller vers une sobriété de la matière, c'est évidemment quelque chose qui est difficilement explicable. On est là sur une thématique qui rappelle les débats, évidemment, du climat et des consommations d'énergie fossile. On est typiquement sur une problématique similaire, à mon avis encore plus complexe, et en tout cas tout aussi nécessaire pour ces pays-là. Alors, merci de votre attention.
Et comme vous l'avez peut-être constaté au fil des différentes tables rondes auxquelles vous avez assisté, les économistes sont par nature pessimistes. Parce que leur métier, mais je veux dire, ça fait partie du métier. Le métier d'économiste, c'est au fond l'allocation de ressources rares ou limitées. Et donc, en permanence, s'il n'y avait pas de limitation dans les ressources naturelles, ou dans les ressources économiques, ou dans les ressources de la dette, il n'y aurait pas besoin d'économistes. Mais comme en permanence on se heurte à des contraintes physiques ou financières, on a besoin des économistes pour comprendre comment est-ce qu'on peut gérer au mieux les choses. Voilà. Et maintenant, la parole est à la salle. On va prendre une série de questions, si vous le voulez bien, monsieur. Vous vous présentez ?
Bonjour, Mesquita Lucas, étudiant en L3 sciences éco-gestion. Donc, dans un premier temps, j'aurais une question pour vous, Monsieur Fouquet, Monsieur Bellet, Monsieur Saadi. Est-ce que, selon vous, le fait que le syndrome hollandais que vous avez, dont vous avez parlé, Monsieur Fouquet, donc de Ribiczynski, s'applique guère aux économies arabes par rapport aux économies africaines, seulement à cause de la mauvaise gouvernance nationale des États africains ? Et dans un second temps, Monsieur Gross, une question pour vous. Donc sur le graphique très intéressant d'ailleurs que vous avez montré tout à l'heure sur les années qu'on pouvait gagner grâce au recyclage, je ne sais pas si vous pourrez le remettre, mais au niveau tendanciel, on constate que si l'augmentation de la consommation est supérieure à 4%, donc ce qui est proche pour le zinc et l'acier comme vous l'avez précisé, sachant que par exemple le Brésil, l'Afrique du Sud ou même l'Inde n'ont pas atteint pleinement leur potentiel de croissance, on observe que le recyclage, qu'il soit de 30%, de 60%, de 90%, il est proche, il converge vers un gain de seulement 10 ans. Donc est-ce que finalement, si la croissance de la consommation est supérieure à 4%, votre métier va disparaître ? Et si la seule solution pour une croissance future est qu'elle soit moins énergivore pour permettre donc une meilleure gestion des consommations ?
Oui, bonjour, Bernard Lé, Association française des ingénieurs de l'environnement. En complément de l'intervention de M. Gross, je souhaiterais évoquer une complémentarité possible pour regagner encore, au-delà des 10 ans qui viennent d'être cités, quelque chose. C'est la prise en compte du concept d'écologie industrielle qui vient rentrer, bien entendu, dans la problématique du recyclage, mais qui est quand même un schéma organisationnel de l'industrie qui viendrait renforcer encore ces possibilités-là. Et enfin, un dernier point qu'il faudrait prendre en compte, qui est celui qui est évoqué par Dominique Bourg dans son dernier ouvrage, avec un co-auteur anglais, et qui est celui de l'innovation institutionnelle, pour prendre en compte, au niveau des États, les sociétés, plutôt les générations futures, afin de mieux intégrer dans nos modes de vie ce qu'il est nécessaire de faire pour laisser un monde possible à nos enfants.
Oui, une question peut-être un peu basique et pas provocatrice du tout. Je veux savoir quel est le rôle de M. Bellec au sein de cette administration des finances, comme conseil, je vais juste dire conseil, mais parmi les conseils donc, qu'il suggérait, me semble-t-il, c'était de monter en puissance sur une structure type allemande, de type allemande. Donc, quel est son rôle? Est-ce qu'il peut influencer éventuellement les pouvoirs publics pour suggérer ceci? Une autre question, c'est la spéculation, on n'a pas trop parlé, me semble-t-il, la spéculation sur les matières premières, c'est-à-dire le rôle normal du jeu de l'augmentation des prix si des pays émergent ou consomment davantage, mais également la spéculation qui accroît, me semble-t-il, la volatilité des prix de manière anormale, c'est-à-dire pas forcément liée à un accroissement de la consommation ou des problèmes agricoles. Donc, que peut-on faire contre cette spéculation? Est-ce qu'on peut lutter contre cela? Est-ce que ce n'est pas nécessaire de le faire pour pouvoir rétablir une meilleure utilisation des richesses? Merci.
Très bien. Sur le syndrome hollandais, ma première remarque, c'est de dire que son nom de baptême s'applique à un pays qui, en principe, est considéré comme ayant une très bonne gouvernance, la Hollande en particulier. En fait, le syndrome hollandais, c'est le fait que l'existence d'une ressource naturelle donne à l'État des moyens financiers importants qui lui permettent notamment d'accroître la consommation intérieure du pays. En accroissant la consommation d'une part. D'autre part, l'importance des ressources naturelles dans l'économie d'un pays tend à faire s'apprécier sa monnaie. Donc le pays va se trouver dans une situation dans laquelle il a une demande intérieure très forte et une monnaie qui s'apprécie. Et donc sa balance commerciale tend à s'inverser. Et en particulier, il importe tous les secteurs concurrentiels compétitifs sont asphyxiés par la présence de cette rente pétrolière. Et donc ça s'applique à n'importe quel pays. Ça s'est appliqué au Brésil, comme ça s'est appliqué aux pays d'Afrique. Et en plus, alors, dans le cas des pays d'Afrique, il y a en plus certaines ressources naturelles ont servi à financer les guerres civiles. C'est-à-dire que l'appropriation de la rente a entraîné des guerres civiles. La guerre des diamants au Sierra Leone en est un exemple bien connu. Voilà, je vais proposer maintenant à M. Bellec de répondre pour sa part et éventuellement à l'ensemble des questions.
Oui, le Dutch Daisy, c'est la maladie hollandaise, des réflexions économiques sur la survalorisation de la monnaie. Et dans les pays qui exportent trop de pétrole ou de matières premières, et donc une concentration de la richesse sur le secteur production qui chasse un peu les autres secteurs. Alors ça, c'est dans les économies où il y a déjà de l'économie, il y a des économies où il n'y a rien. C'est plus violent. On est au-delà. On est dans un Dutch disease au carré, en quelque sorte, dans des économies de la distribution, des économies rentières. Imaginez, si vous avez des cousins ou des amis qui gagnent le gros lot, si vous gagnez des milliards d'euros, la deuxième, la troisième génération, c'est des choses qui sont difficiles à gérer, la gestion d'économies rentières. Donc, mauvaise gouvernance ou pas, il y a de la mauvaise gouvernance, il y a des guerres, et ça attire de la violence, enfin, etc. Donc, il y aurait des ouvrages à faire sur le thème pétrole et despotisme, parce que la caractéristique, c'est que ça accumule de la richesse dans un endroit donné. Donc, ça accumule de la richesse, et cette richesse, elle peut être, elle
peut être d'abord une source de conflit en soi, parce qu'on peut donner créer des jalousies, des tensions. Donc c'est pas parce que c'est pas, je dirais, le pétrole, il n'est pas dans des situations ou dans des pays difficiles, c'est parce qu'il y a du pétrole que les économies sont, ou les situations sont parfois difficiles. Ça peut exacerber des contradictions. Donc sur le tel pétrole, donc on a affaire à des pétrodespotes. Et il y a, Dieu merci, des pétrodespotes éclairés. Alors ils sont pétrodespotes éclairés. Au Moyen-Orient, il y a des investissements qui se font, un développement de l'éducation, de l'enseignement supérieur, et puis enfin partout, ça s'apprend à être riche et à gérer sa fortune. Il y a des économies rentières qui se font. Je veux dire, à mon avis, je ne connais qu'une seule pétrodémocratie par rapport aux pétrodespotes plus ou moins éclairés, qui est la Norvège, qui met tout son stock d'argent en réserve et qui gère tout ça pour les régions futures. Donc il faut pas être uniquement pessimiste. Parce que je reviens sur le terme, c'est-à-dire tout ça, est-ce qu'on est pessimiste? Pessimiste et lenteur. Et j'avais envie de dire des choses sur le pessimisme. Moi, je suis pas spécialement pessimiste. Prenons la question de la consommation matérielle ou de la consommation pétrolière, on en consomme de plus en plus et on consomme de mieux en mieux. Donc c'est une course entre le de plus en plus et de mieux en mieux. Et bien, à un moment, il faut que le mieux en mieux soit supérieur au plus en plus pour que ça marche. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le recyclage. Il y a 40 ans, quand on était dans l'économie du tout pétrole, on utilisait le pétrole à tour de bras, pour tous les usages, pour le chauffage, dans les industries, pour faire l'électricité. Donc maintenant, en 40 ans, on est passé d'un monde où on mettait 25 à 30% du pétrole dans des choses mobiles, les moteurs, les moteurs mobiles, pas les moteurs fixes, donc les avions et les camions et les voitures. On est passé d'un endroit où on mettait 30% du pétrole là-dedans, à maintenant, aujourd'hui, 50-60%, plus la pétrochimie, qui sont des choses bien, donc on le consomme là où il est efficace, là où il est de mieux en mieux. Alors maintenant on arrive un petit peu à des limites. On a mis 40 ans pour passer d'un monde où on passait on a concentré le pétrole sur les endroits, sur les mobiles, et puis maintenant on va encore mettre 40 ans à mettre un petit peu de charbon et d'électricité nucléaire dans le truc, c'est les véhicules électriques, mais ça va se mettre sur 40-50 ans. C'est des choses assez, assez compliquées. Donc un monde moins matériel ou avec moins de pétrole, c'est un monde avec moins de matériel, donc certainement, et puis c'est un monde fondamentalement plus lent. Le pétrole, ça nous sert à nous déplacer, à aller vite, l'énergie à nous déplacer, ça sert à chauffer, construire, nous déplacer. Donc le monde de l'avenir, mais de l'avenir, pas forcément dans une génération, le monde dans un siècle, il sera forcément moins matériel et plus lent. Donc on sera dans un monde plus lent. Ce qui sera plus juste ou plus violent, là c'est, je ne sais pas, c'est une question de pessimisme ou d'optimisme. On peut avoir un truc lent qui soit violent et un truc lent qui soit juste et agréable à vivre. Voilà ce que je voulais dire. Oui, sur mes fonctions, moi je suis ingénieur général des mines. Je dirais dans le conseil général des mines, qui a maintenant changé de nom, qui est conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. On a quelques fonctions administratives très très légères, et je veux dire, c'est un peu un think tank de réflexion pour les gouvernements sur des questions. Donc moi je travaille plutôt sur des questions j'ai travaillé plutôt sur des questions de fixation de prix, sur des questions de carburant, de qualité de carburant, sur des questions d'électricité, sur des questions de prix d'électricité, je dirais un petit peu à la demande des ministres dans des fonctions qui ne sont pas des fonctions où, je dirais, on travaille avec des cabinets ministériels ou des ministres dans la journée, mais sur des questions sur lesquelles le gouvernement envoie des réponses à 3 mois. Enfin, mon dernier rapport, j'ai fait un rapport sur Internet, mais sur les fils électriques. Est-ce qu'on investit assez dans les fils électriques? C'est moins glamour que les sujets évoqués pour l'instant. Donc la spéculation, c'est vrai que c'est un sujet. Pour moi, il y a des études sans fin. Il est certain qu'il y a le flux physique, il y a le flux physique matériel qui se consomme. Il y a tous les gens qui ont besoin d'arbitrer les marchés à terme, et ça, ils en ont tous besoin. Donc il y a 10 fois plus de, il y a 10 fois plus d'activités sur les marchés à terme. Et puis entre temps, il y a vous, moi, etc., nos gestionnaires de fonds de pension qui sont mis à aller là-dessus. Est-ce qu'on peut empêcher? Donc il y a à peu près 10 fois plus d'argent des fonds de pension. Je pense que c'est parce que si le pétrole attire tant les financiers, c'est parce que c'est un marché formidable, il a une liquidité formidable. On peut y mettre des dizaines de milliards de dollars, ça marche, on les récupère. C'est-à-dire que mettez des dizaines de milliards de dollars dans le platine, on peut retrouver le stock de platine, personne n'en aurait. Donc si le marché du pétrole attire tant les financiers, c'est parce que c'est un marché formidable. Personne, il n'y a pas de big brother qui le prend, etc. Le seul big brother, c'est l'Amérique, l'Arabie Saoudite, enfin les gens du Moyen-Orient, on les connaît, enfin depuis le temps, tout le monde les connaît, ils sont des gens sérieux. Et donc c'est un marché qui marche. Et vous avez des milliards de consommateurs, des milliers de producteurs. C'est un marché, c'est le marché idéal des économistes. C'est pour ça que les financiers se mettent dessus, c'est le plus gros marché. Arrêtez ça, on va voir si le G20 sort quelque chose. Mais alors, qui fait le marché? Est-ce que c'est le physique qui fait le marché ou le financier? Pour moi, c'est un truc qui a sa dynamique, qui est attaché, je veux dire, vous imaginez une dynamique du marché physique, c'est un truc qui se déplace. On y accroche un wagon à un ressort qui sont les gens de la finance, ils ont aussi leur propre dynamique, mais de temps en temps, les deux ressorts vont plus vite l'un que l'autre, etc. Donc est-ce que c'est la finance qui tire le physique ou le physique qui tire la finance? À la fin, on ne sait plus. Et je veux dire, il y a des études de pèse comme ça qui ne concluent jamais. Donc le G20 va peut-être conclure, mais c'est difficile. C'est une question difficile.
Merci. Monsieur Stahl.
Oui, juste quelques mots sur la spéculation. Je pense que dans un système libéralisé, il est très difficile de réglementer ou d'interdire la spéculation. La preuve, c'est depuis la crise systémique, autant les Américains que les Européens ont beaucoup de mal à mettre des règles de fonctionnement des marchés boursiers. Mais la spéculation, c'est quand même le sommet de l'iceberg de la volatilité de certaines matières premières. Les spéculateurs n'investissent que dans des matières premières très spéculatives, dans la volatilité de prix très forte, c'est-à-dire la variation entre le prix le plus bas et le plus élevé, autour de 40%. Et jusqu'à l'effondrement des marchés financiers en 2007, les hedge funds, les fonds de pension américains, les banques internationales ont beaucoup investi dans les matières premières. Et à peu près, on compte que c'est la flambée des prix de matières premières. Donc, les placements financiers ou la spéculation a compté pour à peu près 30%. Et avec la crise systémique, les hedge funds et les banques ont retiré leurs fonds parce qu'ils avaient besoin de se réapprovisionner. Et donc ça a contribué de nouveau à l'effondrement des prix des matières premières. Ce qui fait que lorsqu'il y a une volatilité des prix ou une hausse des matières premières, elle est aggravée par la spéculation pour laquelle malheureusement on ne peut rien faire. Voilà, merci.
Monsieur François Gross.
Oui, je vais représenter à nouveau la courbe là, qui ne converge pas vers 10 ans, en fait, mais je pense que vous l'aviez compris, elle converge vers zéro, évidemment. Hein. J'ai eu la curiosité, enfin, elle fait 10 ans à 4%, effectivement. J'ai eu la curiosité, pour un article que j'ai écrit pour Futurible, d'analyser un rapport de la Banque mondiale qui parle de l'économie circulaire en Chine, justement, en fait, de la loi sur l'économie circulaire, et qui s'étonne, justement, que malgré, depuis le début des années 2000, un très gros effort de recyclage, etc., qui est vraiment mesuré en Chine, l'évolution de la ponction sur les ressources minérales n'a pas été énormément affectée. Et évidemment, vous avez compris que vous devinez le taux de croissance de la consommation d'acier en Chine depuis le début des années 2000. J'ai eu la curiosité de faire le calcul, on trouve 6 mois dans le cas de la Chine. Hein, donc vous savez, ils peuvent recycler à 80%, ça ferait 6 mois simplement gagnés. C'est-à-dire leur consommation cumulée au mois de décembre, elle est celle qu'ils auraient au mois de juin s'ils n'avaient pas recyclé à 80%. Avec des taux de croissance de 10%, des trucs comme ça. Donc oui, évidemment, ce message-là, il peut paraître déprimant pour l'économie du recyclage. En même temps, mais bien entendu, enfin, ma réponse, c'est pas simplement un acte de foi, mais c'est que ma réponse, donc, qui n'est pas que, effectivement, mon métier va disparaître, mais au contraire, ce qu'on a vu, c'est que, d'une part, pour que ça marche à la fin, il y a plusieurs conditions à réunir, mais l'une d'entre elles, qui est totalement essentielle, c'est de faire tourner cette boucle, et donc c'est d'avoir justement des taux de recyclage élevés que pour la plupart des métaux, nous n'avons pas aujourd'hui. Hein, et au passage, dans les métaux qui posent problème potentiellement, je parle de nous, le monde entier, en tout cas un paquet de pays, il n'y a pas que l'acier, le cuivre et l'aluminium, il y a aussi effectivement les terres rares et toutes sortes de métaux extrêmement technologiques sur lesquels aujourd'hui, mes collègues l'ont dit, les enjeux ne sont pas simplement de l'épuisement de la ressource, c'est des enjeux stratégiques. Hein, la Chine a mis des quotas là, sur les terres rares brutalement, notamment pour embêter le Japon, etc. Enfin bref, là on mesure vraiment de façon tout à fait tangible ce que ça signifie d'avoir une concentration des ressources de matières premières et la capacité à, même si ça ne fera que 50% des besoins nouveaux, etc., ces 50%-là, c'est sur un plan géopolitique, sur un plan stratégique pour un pays, totalement essentiel, évidemment. Ça, c'est un premier point. J'ai souligné le fait qu'il y a ensuite un impact sur le climat qui est totalement essentiel également, qui est extrêmement important. Et puis, je le répète, de toute façon, pour résoudre l'équation à la fin, il va falloir atteindre des taux de recyclage très élevés. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est important, le recyclage, de toute façon, il a de l'avenir. En fait, ce qui va, à mon avis, se passer pour un métier comme le nôtre, et pour toute cette problématique, j'ai dit tout à l'heure que les politiques publiques devaient probablement, enfin, devaient très certainement élargir leur champ d'action du déchet à la matière, et je pense que pour les modèles économiques d'entreprises comme la mienne, c'est aussi le terrain sur lequel il va falloir qu'on aille, c'est-à-dire nos modèles économiques vont changer, on ne sera plus seulement des recycleurs, ou du moins ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher la matière avec des degrés d'exigence plus élevés. Aller chercher de l'acier, c'est pas très compliqué dans l'économie. Aller chercher du tungstène, c'est plus compliqué. Et aller chercher du lithium ou du cadmium, c'est encore beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est pas que de la technologie de recyclage. C'est des modèles commerciaux à mettre en place. C'est des modèles réglementaires à mettre en place. C'est des choses qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, dans lequel on segmente différemment la responsabilité successive du devenir de la matière. Aujourd'hui, un déchet... Le devenir du déchet, c'est la responsabilité du dernier qui l'a utilisé, bim, et qui l'a jeté dans la poubelle. Sur certaines matières, ça commence à devenir la responsabilité de celui qui lui a vendu le stylo, de savoir ce qui va se passer derrière. Et on va aller vers des choses plus complexes comme ça, où on voit qu'on va peu à peu couvrir le champ de la matière, encore une fois dans les politiques publiques, mais aussi, bien entendu, dans des modèles économiques qui vont être de plus en plus compliqués, qui vont être, je pense, de moins en moins matériels, justement, et à la limite, là, on a une évolution vertueuse, et qui, à mon avis, vont avoir de plus en plus de valeur, justement. Alors, ça me fait une transition avec la deuxième question, qui est sur, finalement, les moyens d'aller dans cette direction. Parce que je pense que, effectivement, l'écologie industrielle, vous avez cité Dominique Bourg, qui, lui, parle beaucoup aussi de l'économie de la fonctionnalité, par exemple. Donc, là, on est sur des approches qui sont des tentatives de solutions pour refroidir l'économie en question. À la fin de la fin de la fin, je pense que les trois paramètres que j'ai évoqués, ils sont la sanction, finalement. Est-ce que, oui ou non, on a réussi à assagir la croissance, à ralentir un petit peu notre degré d'accumulation supplémentaire et à recycler beaucoup? Pour y parvenir, j'ai soulevé des questions, je n'ai pas encore apporté les solutions, je ne suis pas capable de les apporter d'ailleurs, mais en tout cas, il y en a une palette, et je pense que effectivement, des approches... De toute façon, ça va passer justement par des approches intégrées dans lesquelles... Enfin, c'est des thématiques comme le Sustainable Materials Management qui sont des thématiques qui vont arriver sur la table des politiques publiques en Europe, le CDE, etc., je pense dans la décennie, là, dès l'année prochaine, probablement pour l'Europe, et qui consistent finalement à envisager les impacts environnementaux et la sobriété matérielle, plus simplement process par process ou par branche d'activité, l'industrie automobile, l'industrie de la chimie, de je ne sais quoi, etc., mais sur le cycle d'une matière donnée, c'est-à-dire en se disant, voilà, c'est le cycle de l'acier, c'est le cycle du je ne sais pas, des graviers, parce qu'il n'y a pas que les matières... En bref, sur les thématiques qu'on a évoquées, c'est quand même moins le gravier, plus l'acier. Et donc, dans ces nouvelles approches... Enfin, on a besoin de déployer des approches de ce genre pour arriver à faire des choses. Et par exemple, l'économie de la fonctionnalité qu'évoque souvent Dominique Bourg, ça consiste finalement à faire évoluer les modèles économiques d'un grand nombre d'acteurs vers de la vente ou de l'achat de fonctions et plus la vente ou l'achat d'un objet. Alors l'exemple qui est souvent pris par exemple, c'est celui de... Alors malheureusement, tout le monde prend toujours le même exemple depuis 10 ans, ce qui n'est pas rassurant, hein, c'est celui de Rank Xerox. C'est pas rassurant, mais ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres expériences magistrales dans ce domaine. Rank Xerox qui vendait des photocopieurs, qui a constaté qu'ils étaient soumis à une concurrence qui les amenait à baisser leurs prix constamment et qui était contraint par le coût de ses composants, mais qui constatait aussi que lorsqu'après un leasing de 3 ans, ils étaient amenés à reprendre et à jeter en quelque sorte le photocopieur, il y avait encore plein de composants qui étaient parfaitement capables de tenir encore très longtemps. Si bien qu'ils ont fini par construire une usine dans laquelle ils démantèlent leur photocopieur, ils refont un photocopieur qui n'est ni neuf, ni d'occasion, parce qu'il a des pièces neuves, il en a d'autres qui ne sont pas neuves, et au lieu de vendre du photocopieur ou de le louer en leasing pour 3 ans, ils vendent de la copie. Et ils prennent la responsabilité du matériel qui est derrière. Et là, on voit effectivement qu'ils créent de la valeur, ils ont réaugmenté leur marge avec un système dans lequel moins ils consomment de matière et mieux ils se portent, parce que pour eux, ça devient des coûts. C'est plus l'objet qu'ils vendent, c'est la copie. Et donc, on est dans un truc où, effectivement, on voit qu'on doit être capable, sur quelque chose qui n'est pas un bien culturel, qui est l'exemple habituel du bien immatériel, de découpler. Donc, tout ça, ce sont les solutions. Mais à la fin, ça ne change rien au fait que la sanction ultime, ça va être de voir est-ce que les paramètres physiques, tangibles, des consommations de matières premières, du stock et du recyclage sont à peu près dans les purs. Autrement, on aura là encore gagné que un temps, ce qui est déjà pas mal et qui n'est pas toujours suffisant.
Voilà, merci à tous.
Justement, de la conclusion, c'est qu'à partir de ce thème de la bataille des matières premières, finalement, on arrive à constater que le monde est fini, quoi, avec deux grandes thématiques qui sont ces matières premières minérales, etc., et puis tout le monde de la biodiversité. À la fois, il y a des choses, d'être pessimiste, il y a des choses qui sont très, très, très positives dans le monde d'aujourd'hui, et puis d'autres qui sont plus négatifs. Enfin, on pêche des poissons de plus en plus petits et on subventionne la pêche partout dans le monde. Donc, jusqu'où ? Il y a un moment, il faudra arrêter. Il faudra arrêter de faire ça. Donc, il y a énormément de choses. On subventionne partout, des places de port, au bord de la mer, pour que les gens mettent des bateaux qui vont utiliser 8 jours par an. On n'est pas toujours dans l'économie circulaire dont on vient parler. Donc, il y a des choses positives, des choses négatives. On est dans des mondes...
Donc vous n'êtes pas aussi optimiste que ça.
Non, mais il faut ralentir. J'ai bien apprécié les tours de manivelle. Il faut ralentir les tours de manivelle.
Merci beaucoup.